Tous les lundis soirs à 18h10, vous avez rendez-vous avec l'actu sportive, le journal des sports de BPM. Au programme, résultats, invités, interviews téléphoniques et réactions en direct. Une seule fréquence, 102.1. BPM, la radio qui vous donne le rythme du sport partout dans le Mantois. Le journal des sports de BPM.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des sports. Aujourd'hui, nous recevons Eduardo Rodriguez, président et coach du club Chapakent de Mantes-la-Jolie. Nous parlerons avec lui de MMA, les arts martiaux mixtes, et puis nous vous livrerons les dernières actualités sportives dans la région.
BPM, le journal des sports.
Aujourd'hui, je reçois Eduardo Rodriguez, président et coach du club Chapakent de Mantes-la-Jolie. Eduardo Rodriguez, bonjour.
Bonjour.
Alors, le club Chapakent, c'est un club spécialisé dans les sports de combat.
Et plus exactement, le MMA, Mixed Martial Arts.
Voilà, les arts martiaux mixtes en français. Avant de parler de cette discipline, on va refaire un point sur l'historique du club. Quand a-t-il été créé ?
Alors, le club, historiquement, il a été créé depuis tellement longtemps que je ne sais pas, puisque moi, je l'ai repris il y a 6 ans. Donc, il y a 6 ans, on est passé d'un club de boxe française à un club de MMA. Donc, nous, ça fait 6 ans qu'on est en place à l'Écuyer. En fait, on a pris le club parce que nous, on avait un club dans lequel nous, on entraînait. C'est, quand je dis nous, c'est moi, Karim, en fait, les personnes qui encadrent le club de la Chapa actuellement. Et on a eu cette opportunité à Mantes-la-Jolie. Et l'avantage d'avoir son club, c'est que bah, du coup, on est libre, on est aux commandes et on peut aller dans toutes les directions qu'on veut. Et nous, comme on a envie d'aller dans beaucoup de directions, et bah, là, c'est l'outil parfait pour pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire.
Et pourquoi précisément les arts martiaux ?
Alors, rentrer dans la partie philosophique des trucs, c'est pas taper sur des gens. En fait, c'est pour les gens qui ont déjà pratiqué, vous vous sentirez jamais aussi vivant que quand vous mettez... entre gros guillemets, votre vie en danger en fait. Je pense que c'est ça les gens qui aiment les sports de sensations fortes. Quelle idée d'aller sauter à l'élastique ou de faire du parachute, des choses comme ça. Je pense que c'est ça en fait. C'est qu'on se sent jamais autant vivant que quand on est un petit peu en danger, etc. Et c'est un miroir qu'on se met face à soi en fait. Parce que là, on peut pas tricher. Quand vous êtes devant quelqu'un qui essaye de vous taper dessus, etc. Mais ça reste un sport. Hein. Mais là, c'est réel en fait. On peut pas feinter, on peut pas simuler la blessure, etc. Donc c'est ça que j'aime dans ce sport-là.
Alors donc on l'a dit, vous êtes plutôt focalisé sur le MMA, les arts martiaux mixtes. Une présentation de cette discipline, alors, de quoi s'agit-il ?
Très rapidement, c'est un mélange de plusieurs sports à la base, donc de la percussion, de la boxe, Muay Thai et tout ça, tous les styles de percussion, de la lutte, des techniques de préhension, donc la lutte, le judo par exemple, et tout ce qui est le travail au sol, donc ce qu'on retrouve en jiu-jitsu brésilien, en lutte à livre, etc. Et en fait, la particularité du MMA, c'est pas seulement le sport A plus le sport B plus le sport C, c'est vraiment un sport à part entière. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les transitions entre tous ces sports-là, bah vous n'êtes pas un bon artiste martial en fait.
D'accord. Donc
vraiment, c'est un sport à part entière, mais pour simplifier, on peut dire que c'est un mélange de tous les sports de combat qui existent.
C'est un mélange dans le sens où dans le combat, on utilise les techniques de ces trois sports.
Vous avez les trois aspects.
D'accord.
Percussion, préhension et... grappling, je sais pas le mot français exact pour le dire, mais c'est ça, le travail au sol en fait.
Mais justement, on peut détailler justement ces trois types. Donc d'abord la percussion pour la boxe.
Percussion, pour simplifier, pour les auditeurs, ce serait tout ce qui est karaté, boxe thaï, taekwondo, voilà. Pour la partie préhension, comme je l'ai expliqué, c'est les sports tels que la lutte, le judo, tout ce qui est le concept est d'attraper, de ramener au sol. Et en fait, là où tous les autres combats s'arrêtent, nous on continue. C'est-à-dire qu'en boxe, quand vous mettez le knockout ou le knockdown, l'adversaire est au sol, on arrête le combat, on attend, on va compter 1, 2, 3, 4, est-ce que tu veux revenir, oui, non, machin, et ça repart. Au judo, dès qu'il y a la projection, en lutte, dès qu'il y a la projection et le contrôle, c'est fini. Et nous on continue là. En fait, c'est ce qu'au judo ils appellent le newaza, c'est continuer au sol à travailler en prise, etc. Et ça on le fait. La petite particularité en plus, et qui est choqué, mais je pense qu'on va y venir, les gens souvent, c'était les frappes au sol, qui du coup n'existent dans aucun sport, il me semble, si je ne dis pas d'erreur, à part en MMA. Et ça choquait beaucoup, parce que c'est vrai que quand on est novice et qu'on regarde quelqu'un qui se fait taper au sol, on dit « Mais mon Dieu, celui qui est au sol, le pauvre !» Mais en fait, si vous ne me croyez pas passer au club, je vous montrerai que c'est pas évident de frapper quelqu'un au sol. Je serai au sol, vous pourrez me frapper. Concrètement, les enfants que j'ai au club, je leur fais faire de la lutte à livre, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucune percussion, aucun traumatisme, c'est vraiment que des prises, du contrôle. Et ce qui est intéressant à ce niveau-là, je fais une petite... un petit écart, c'est que en fait les enfants qui sont relativement chétifs, ils peuvent prendre confiance en eux parce qu'ils voient que si la technique est bien placée, même si on n'est pas physiquement avantagé par rapport à un partenaire, on peut quand même être performant.
Alors du coup, le MMA, il a été légalisé tout récemment en France.
Bah là maintenant, ça fait un an maintenant.
Ça fait un an, voilà.
C'est janvier de l'année dernière.
Voilà, c'est assez récent. C'est un des derniers pays à légaliser cette discipline. Bah, on va parler un petit peu de la mauvaise presse qu'avait le MMA jusqu'alors. Mm-hmm. Comment vous l'expliquez ?
Je l'explique en partie. Bah, ce que je vous dis juste avant, c'est vrai que pour une personne qui connaît pas le sport, voir quelqu'un qui se fait frapper au sol, bah, ça peut paraître un peu barbare. Et c'est normal parce que tous les sports auxquels on est habitué, les sports de combat, c'est des sports qui se pratiquent debout, où on se tape debout. Mais alors, je peux vous garantir que c'est bien moins dangereux, bien moins violent de se prendre un coup quand vous avez un adversaire qui est couché au sol que de se prendre un direct d'un poids lourd ou d'un boxeur qui arrive pleine puissance. Bon, ça c'est la petite aparté. Mais je pense que surtout ce qui a fait la mauvaise presse, bah, c'est la presse justement. Quand vous voyiez à l'époque tous les reportages, tout ce qui était fait sur le MMA, on montrait toujours bah, les pires images. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui fait vendre. Si vous faites un reportage, un documentaire, où vous dites bah c'est plutôt sympa comme sport, c'est bien, ça va pas trop attirer les gens. Maintenant, quand ils faisaient du sensationnel, qu'il y avait des gars en sang, etc., ah, bien sûr, ça attire plus les gens, mon Dieu, c'est un sport horrible, etc. Mais je peux vous garantir que moi, ce qui me gêne le plus dans ça, c'est le manque de respect qu'il y a envers les athlètes. Parce qu'on les compare à des barbares, alors que en fait, c'est les athlètes les plus complets du monde. Il faut qu'ils maîtrisent toutes les techniques. En plus de ça, il faut avoir une condition physique vraiment extrême. Enfin, c'était un manque de respect total envers les athlètes. Mais je pense que la mauvaise presse, elle vient de là, et ça a été, à mon avis, alors, c'est peut-être légende urbaine, beaucoup bloquée par d'autres fédérations qui n'étaient pas intéressées du tout à ce que le MMA soit démocratisé. Bah, après, là, c'est le petit jeu des licences, de perdre des licenciés, etc. Juste que je trouve parfaitement ridicule, parce que, en fait, quelqu'un qui veut faire du judo ou qui veut faire du taekwondo ou je ne sais quoi, il ne va pas du jour au lendemain se mettre à faire du MMA. Le MMA, c'est vraiment pour les gens qui aiment faire ça. Donc, plutôt que d'essayer de bloquer d'autres sports, en fait, je pense qu'ils devraient mettre l'accent sur vraiment valoriser leur sport à eux. Et s'ils sont sûrs d'eux, s'ils sont sûrs de leur discipline, bah, qu'ils mettent leur sport en avant et voilà, il n'y aura pas de problème.
Et alors, selon vous, qu'est-ce qui a fait que ça a changé d'avis au niveau national pour...
Alors, comme vous l'imaginez, je ne suis pas dans les petits secrets de l'État, etc. Peut-être que ce qui a fait bouger les choses, c'est qu'en fait, ça génère de plus en plus d'argent, que c'est un vrai business. Peut-être qu'ils se sont dit, bah, s'ils arrivent à faire autant d'argent avec ça, c'est que ça doit pas être un truc aussi barbare que ça, etc. Je sais pas, là, honnêtement, j'ai pas. C'est juste mon idée.
On l'avait évoqué, la principale appréhension concernant les MMA, c'est sur son côté, il paraîtrait violent, mais il y a quand même. Il y a des protections au niveau du terrain, il y a des protections pour les combattants. On va parler de ça, hein, d'abord. Pour le combattant, quel type de protection dispose-t-il ?
Les gants, c'est des mitaines. Pourquoi ? Enfin, les mitaines, pour résumer, bah, vous voyez des mitaines. C'est des gants en forme de mitaine avec les doigts libres. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on travaille au sol, du coup, les doigts doivent être libres pour pouvoir saisir, etc. Les gants, très sincèrement, ils sont là pour protéger les mains, pas pour protéger la tête de l'adversaire. Après, ce qu'il faut bien mettre en parallèle, et ça, j'aime bien faire ce parallèle-là, pour les gens qui regardent les combats professionnels à la télé, je compare ça souvent à ça. Quand vous regardez Real Madrid-Barcelone, enfin, je sais pas, j'y connais rien au foot, mais c'est le classique. Real Madrid-Barcelone, quand vous regardez ça à la télé et que vous allez dimanche matin voir les gars qui jouent sur le terrain, est-ce que vous regardez la même chose ? Est-ce que c'est le même sport ? Eh ben, dans notre sport, c'est la même chose. Quand vous regardez les champions qui mettent des coups de coude, c'est des gens qui sont préparés pour ça, ils ont un niveau que les gens qu'on a en club, ils n'ont pas encore. Du coup, c'est pas le même sport. Et souvent, ce qui m'attriste un peu, surtout au niveau des enfants, c'est que les parents, ils arrivent, ils font « Ah non, mais le MMA, je peux pas le mettre là-dedans, c'est trop violent ». Et en fait, je leur dis, bah écoutez, venez, faites un cours et demandez au petit s'il a aimé ou pas. Et c'est 100% de réussite. Enfin, j'ai jamais un petit qui est venu qui a dit, ah non, c'est trop violent, etc. Parce qu'il faut mettre les choses adaptées quoi, au public qu'on a devant. Quoi.
Et au niveau du terrain, là, on combat sur quoi ?
En compétition, il n'y a pas de règle établie. Le mieux, c'est la cage. Alors la cage, souvent, c'est mal vu aussi, parce qu'il y a le côté ah, cage, c'est des animaux, etc. Mais non, en fait. C'est juste que la cage, elle permet que vous ne tombiez pas de la surface de combat. Si, et en France, c'est souvent sur ring, il y a déjà eu des athlètes qui sont tombés du ring. Et là, pour le coup, là, c'est dangereux.
Bien sûr, parce qu'ils tombent de plus d'un mètre de haut.
Bah, le ring, il est à 1m30. Les athlètes, s'ils passent par-dessus la corde, il faut rajouter encore 1m30, ils sont de 2 mètres de hauteur. sur les tables des officiels, etc. Donc, c'est pas adapté. Et après, c'est vrai qu'au départ, la cage, au-delà du fait que ce soit pour protéger les athlètes, c'est vrai que ça a été fait aussi pour le côté... Au début, ça a été vendu comme ça, le MMA. Les UFC 1 en 93, c'était vraiment deux hommes rentrent dans la cage, un seul sort, etc. C'était le marketing. Mais en fait, c'était un couteau à double tranchant, en fait. Parce que d'un côté, ils ont fait beaucoup de ventes, mais de l'autre côté, ils se sont brûlés les ailes, quoi. Parce que du coup, on a vu cette image qu'on s'est trimballé pendant des années de sport de sauvage.
Mais voilà, là, il y a un apport sécuritaire.
Certes.
Ça empêche les combattants de tomber.
Exactement.
On revient donc à votre club, Chapakens. Donc, on a parlé des disciplines que vous enseignez. D'abord, un petit tour sur vos cours en ce moment.
Actuellement, ce qu'on fait, pour ne pas laisser nos adhérents complètement sans rien, on fait des cours quand même en extérieur. Après, c'est très limité, forcément. Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de sol, il n'y a pas de contact. C'est vraiment... Mais au moins, on propose quelque chose. Et au-delà du sport, en fait, un club, ce n'est pas juste pratiquer du sport. C'est aussi être ensemble, etc. Ça nous pénalise déjà assez, cette maladie. Il ne faut pas qu'en plus, ça nous vole ça, quoi. Donc, c'est des bons moments qu'on passe ensemble. Et donc, on fait des entraînements à l'extérieur.
Et du coup, comment on fait pour apprendre, pour enseigner des techniques sans qu'il y ait la possibilité de s'entraîner face à quelqu'un?
Alors après, c'est de la répétition, c'est du shadow, c'est des exercices que vous faites avec un partenaire imaginaire, etc. C'est pas l'idéal, c'est sûr, mais c'est toujours mieux que de ne rien faire.
On va parler tout à l'heure des cours pour enfants et de la boxe féminine, mais avant cela, on fait le point sur les dernières actualités sportives dans la région.
Le journal des sports, les résultats.
On commence par les Jeux Olympiques 2024. Dès aujourd'hui, le label Terre de Jeux 2024 propose à tous les territoires de France et à leurs habitants de participer au temps fort des Jeux et de développer leurs propres actions pour mettre encore plus de sport dans le quotidien de leurs habitants. Aubergenville, Magnanville et Houdan ont obtenu ce label. Et puis autre information, le 25 février, 15 fédérations étaient présentes au siège du Comité National Olympique et Sportif Français dans le cadre d'une conférence de presse, une conférence pour les disciplines d'intérieur, lesquelles sont les plus touchées par les restrictions gouvernementales contre la Covid-19, les instances concernées réclament un retour dès que possible des adhérents dans les clubs en respectant des protocoles sanitaires adaptés. Elles souhaitent également entériner la défiscalisation des licences pour les sports de salle qui n'ont pas pu être pratiqués cette année et de valider la mise en place d'un fonds de soutien direct à l'intention de ces fédérations. Une petite page de pub et on se retrouve pour la seconde partie du Journal des Sports.
BPM, le Journal des Sports.
On entame la seconde partie de votre journal des sports, toujours avec Eduardo Rodriguez, président et coach du club Chapakent de Bente-la-Jolie. Alors, on a parlé de vos cours durant la période de confinement, mais en temps normal, comment vous enseignez?
On est ouvert à tout le monde, des loisirs, donc vraiment la personne qui vient qui me dit « j'ai absolument pas envie de combattre », c'est pas grave. Mais que ce soit de cette personne-là à celui qui arrive qui dit « je vais être champion du monde », et ça arrive qu'il y en a qui me disent ça, même s'ils se rendent pas compte du travail que c'est, à eux tous, on propose la même chose, c'est-à-dire qu'on montre quelque chose de réaliste. Ils vont pas venir pour faire du court loisir, tu tapes dans le vent, etc. Il faut qu'il y ait le côté réel. Pourquoi? Parce que ce côté réel-là, il va leur donner confiance en eux. Et quand ils sortent de là, quand ils ont fait une année avec nous, ils ont vu que, un coup à la tête, ça a jamais tué personne. Surtout que quand c'est donné sans mauvaise intention. C'est-à-dire que c'est vraiment du partenariat. Et c'est très important. Il y a plein de gens qui sont pas sûrs d'eux, qui se font des films, il y a quelqu'un qui parle un peu fort, il commence à avoir peur déjà, etc. Et en fait, tout ça là, ça les aide à relativiser. Et en fait, c'est des gens qui sont beaucoup plus sûrs d'eux une fois qu'ils viennent chez nous, parce qu'ils se rendent compte que c'est rien. Et personne n'est jamais sorti avec des dents cassées, des arcades ouvertes, ou je ne sais quoi. Mais par contre, on met vraiment l'accent sur le côté réaliste. On va vraiment faire du sport. On fait vraiment du MMA. On va pas faire semblant, se mentir, se dire qu'on fait des trucs qu'on le fait pas. Et après, au niveau de la répartition des cours, on essaie de diviser un petit peu. Il y a des jours où on est plus focus sur la partie boxe, pied-point. D'autres, on est plus focus sur la partie sol pour que les gens qui ont des affinités plus grandes avec tel ou tel sport puissent, de préférence, choisir le cours qui va aller plus dans le domaine qu'ils préfèrent. Par exemple, une personne peut faire du MMA, faut aimer un peu tout. La personne qui n'aime pas le sol va pas faire du MMA. Elle va aller faire de la boxe thaï, du taekwondo, je ne sais quoi. Et inversement, celui qui aime le sol, il va pas faire du MMA. Il va pas vouloir prendre deux coups, jamais. Mais pour celui qui aime un petit peu tout, qui sait pas trop quoi faire, nous, c'est le sport idéal. Et si un jour, il a plus envie de faire du sol, mettons, il viendra que au cours du vendredi matin et du mercredi soir, par exemple.
Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a une session pour les enfants, Chapa Kids.
Oui.
Qu'est-ce que vous leur enseignez?
Alors, le Chapa Kids, c'est le cours que vraiment je préfère faire. c'est vraiment celui où, quand le samedi arrive, je suis vraiment content. Je le fais en partenariat avec Mounir, que vous avez déjà reçu à la radio. Et c'est vraiment, vraiment un plaisir. Pourquoi ? Parce que le focus vraiment sur le Chapa Kids, c'est le sport, c'est en fait, c'est l'hameçon en fait. C'est pour attirer les petits et ils aiment ça, on fait beaucoup de sport. Mais au-delà de ça, on travaille énormément sur le savoir-être. Sur le savoir-être, sur il y a plein de choses. Mais je fais vraiment attention à inculquer des valeurs aux enfants. Des choses toutes simples. S'aider. Souvent, quand les petits viennent, ça c'est la société qui veut ça. Quand il y en a un qui est moins bon, on se moque de lui. Du coup, j'accepte pas ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait ça, je le mets face à lui. Je dis, écoute, si quelqu'un disait ça de toi, est-ce que ça te plairait ? Bah non. Je dis, bah, pourquoi tu le fais alors ? Et en fait, c'est ça vraiment l'idée que j'essaie de leur passer, c'est ne faites pas aux autres ce que vous aimeriez pas qu'on vous fasse à vous. Et du coup, il y a ça, il y a d'autres choses aussi. J'essaie de faire des parallèles avec l'école. Donc, je les motive à travailler bien à l'école. Et ponctuellement, on leur demande de ramener toutes les bonnes notes qu'ils ont. Et celui qui ramène le plus de bonnes notes, on leur donne. Ça peut être des petits gants de MMA, un sac à dos, des choses comme ça pour les motiver. Et là, ce qu'on voulait lancer avant le début du Covid, mais on a été cassé par le Covid, c'est une fiche bonne action. En fait, un papier qu'on va leur donner où chaque fois qu'ils font une bonne action, ils notent dessus. Tel jour, j'ai fait telle bonne action. Ça peut être des petites choses. J'ai aidé ma mère à faire la vaisselle, j'ai aidé mon père à monter les courses, etc. Pour que dans leur tête, on sème la graine de faire le bien, ça va me mettre d'une bonne humeur. Parce qu'en fait, vous faites une bonne action, vous vous sentez bien derrière. Et en fait, c'est ça qu'on essaie d'inculquer au-delà du sport. Après, ils font du sport aussi, ils sont pas mal.
Oui.
J'ai pas mal de petits qui ont été... On a fait les championnats d'Europe. Ça remonte maintenant, avec le Covid. Mais j'ai eu pas mal de petits qui s'étaient sacrés champions d'Europe en lutte à livre.
Rapidement, sur le côté technique de la chose pour les enfants, il y a une appréhension à gérer différemment.
Bien sûr. Pas de percussion, il y a beaucoup de différences de poids chez les enfants. Un enfant de 7 ans, vous en prenez deux, ça peut être du simple au double. Alors, j'exagère un peu, mais enfin, vraiment les gabarits, ça change énormément. Et du coup, il n'y a pas de percussion, on essaie vraiment d'être dans l'approche technique, ludique, qui s'amuse, mais aussi qu'ils n'aient pas l'appréhension des coups. Souvent, il y a des petits qui pleurent, pour rien en fait, on va les voir, mais qu'est-ce que t'as ? Et souvent, ce que je leur dis, c'est j'appelle les pompiers, ils me disent non. Je dis alors c'est que c'est pas si grave que ça. Et je leur dis regarde. Si tu pleures tout le temps, je saurai jamais quand t'as vraiment mal. Donc si jamais tu pleures, faut vraiment que t'aies quelque chose que... Et en fait, ils se rendent compte que c'est pas si grave que ça. Après, je les retire peut-être un petit peu tôt de l'enfance, mais moi, du coup, je gère des cours où il y a des fois 30-40 enfants en même temps. On est deux à gérer. Et ça se passe très bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette discipline un petit peu plus dure, mais au final, les enfants, ils reviennent et ils demandent à revenir. Moi, j'ai un groupe WhatsApp avec les parents des enfants et ils arrêtent pas de me dire « Mais quand est-ce que ça reprend ?» Parce que le petit, il demande. Donc au final, c'est peut-être un petit peu plus militaire, un peu plus dur, mais ils aiment ça et c'est, je pense, pas plus mal pour eux.
Vous avez également une section boxe féminine.
C'est vraiment de la boxe féminine, du coup, moi, j'y mets pas les pieds. Alors, je supervise de loin. Notre coach, j'en suis super content, c'est Julien Nilusmas, multiple championne de France, championne du monde récemment, boxe ici à Mantes. Elle est du club Uppercut. Et c'est elle qui anime le cours et ça se passe super bien. Il y a vraiment une ambiance. Alors, chez les filles, comme je vous dis, moi j'y vais pas, mais j'ai les retours de Juna qui me fait les retours. C'est vraiment une ambiance entre filles, plus que le côté compétition, c'est le dépassement de soi, le bien-être. Et c'est vraiment c'est super parce que pour une fille, c'est pas évident d'aller dans un club de sport de combat. Vous rentrez, il y a 99% de garçons. Nous, en plus, c'est un sport où on se colle, on jette au sol, etc. Il y a cette petite barrière et je veux pas que ça soit une barrière. Je veux que tout le monde qui a envie de venir au club puisse venir sans qu'il y ait de barrière. Et justement, le club, la section féminine, c'est vraiment top pour ça.
Comme cours, il y a aussi la prépa fight, la préparation physique.
Prépa physique, j'ai la chance d'avoir des gens hyper qualifiés au club. J'en reparle encore, c'est Mounir et Mossab. Donc Mounir Hadi et Mossab Elmarskiwi, qui eux sont des étudiants en STAPS. Au-delà d'être étudiant en STAPS, moi-même je l'ai fait, on a fait une formation avec Rémi Lancou. Alors pour ceux qui connaissent un peu, qui suivent le football, c'est le préparateur physique de la sélection d'Algérie, qui ont été championnes d'Afrique récemment. Et donc on s'est formé avec lui, c'est vraiment le top de la prépa physique. Ce qu'on a voulu, c'est rapporter un peu toutes ses connaissances, toutes les connaissances que Mounir et Mossabon, pour proposer aux gens de Mantes vraiment une vraie prépa orientée vraiment pour les sports de combat. Et donc on fait ça, avec les créneaux qu'on peut, on le fait le dimanche matin. Alors, c'est pas évident, faut être courageux, mais bon, de toute manière, pour faire de la prépa physique, faut être courageux. Donc, on s'est dit, c'est parti pour le dimanche matin.
Et qu'est-ce qu'on travaille particulièrement ?
Après, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a une partie musculation. Mais alors, c'est pas de la musculation pour l'hypertrophie, pour le visuel, en fait. C'est vraiment une musculation dirigée vers la performance sportive. Il y a tout ce qui est gainage, donc musculation, gainage. et également tout ce qui est la mobilité. La mobilité, c'est très important. C'est en fait faire travailler le corps dans le maximum d'amplitude et d'angle pour justement pallier aux futures blessures que vous pouvez avoir. C'est-à-dire qu'un corps qui est bien mobile, en fait, vous allez exécuter l'exercice sans vous blesser. Un corps qui n'a pas de mobilité, quand vous faites un exercice, comme vous n'avez pas de la mobilité, votre corps il va toujours trouver un moyen de faire le mouvement, mais mal, et vous allez vous blesser. Et le dernier aspect, c'est la partie cardio. Et les parties cardio, elles sont costauds.
Vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, hein, le Covid a eu un gros impact hein, sur le club. Donc les cours, malheureusement, ils sont largement chamboulés. Hein, il n'y a plus de possibilité de faire des sessions en face à face. Autre impact que ça a eu
Sur les adhésions, tout simplement. L'année dernière, on était à pratiquement 200 adhérents entre les trois sections. Et cette année, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, quand ils sont arrivés, écoute, je vais attendre un peu, voir comment ça se passe par rapport au Covid avant de payer ma cotisation. Et du coup, sur un cours mixte où j'étais à une centaine d'adhérents l'année dernière, cette année, on arrivait tant bien que mal à 50. C'est la moitié. Et je comprends les gens. Et maintenant, c'est pour ça que je continue encore à faire des cours à l'extérieur, parce que je me sens, même si c'est pas de ma faute, si personne m'a jamais fait la remarque, moi, je me sens un peu... je me sens de les avoir trahis, parce que j'ai pris une cotisation et pour faire vivre le club, il faut que je propose quelque chose. Et faire des trucs par visio, je peux pas, là c'est trop pour moi. Ouais. Je peux pas, je préfère aller dans le froid, mais au moins je suis avec eux et voilà, je leur propose quelque chose. Mais sinon, ouais, on a eu vraiment une grosse chute sur les inscriptions, et ce qui est vraiment dommage, parce que peut-être qu'on va en reparler après, on vient d'avoir un champion du monde là il y a pas longtemps, et je pense que ça vraiment ça aurait motivé énormément de gens à venir au club.
Mais justement, on peut en parler maintenant, ce champion donc qui vient de chez vous.
C'est un athlète de chez nous qu'on a depuis qu'il a 15 ans, qui est champion du monde et qui actuellement est pas loin d'être, si c'est pas le numéro 1, il est facilement dans le top 3 des athlètes de référence du MMA national.
Au niveau de la compétition, donc là aussi ça a cessé.
En gros, il y a les professionnels qui combattent. Morgan là, il peut combattre, mais il faut savoir que pour combattre, c'est vraiment super compliqué. Concrètement, ce qui se passe, les galas là, ceux qu'on fait, ils sont en Angleterre. Aux Émirats Arabes Unis aussi, il y a des compétitions, mais le process, il est très compliqué. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on part une semaine avant l'échéance, on est enfermé dans nos chambres, on est testé dès qu'on arrive, on est enfermé dans nos chambres. On attend les résultats. Si les résultats sont bons, c'est-à-dire qu'on n'a pas de problème de Covid, là, on est autorisé à sortir de la chambre, mais à rester à l'étage de l'hôtel. C'est-à-dire que concrètement, là, on reste une semaine dans un étage d'un hôtel. Si par malheur, vous êtes positif, là, vous restez enfermé 10 jours dans votre chambre. Et c'est super compliqué pour la préparation. Parce qu'arriver une semaine avant, une préparation que vous faites à l'hôtel, c'est pas la même préparation que vous faites quand vous arrivez 3 jours avant le combat. C'est super compliqué, mais au moins, on peut reprendre. L'avantage du statut professionnel, par exemple, quand on combat en Angleterre, c'est que nous, on n'a pas tous les problèmes que... par exemple, si vous voyagez en Angleterre, là, il y a plein de papiers, de choses à faire que nous, on n'a pas parce qu'on a le statut combattant élite.
Est-ce que il y a des événements que vous organisez hors compétition, hors cours, des rendez-vous particuliers dans l'année?
En fait, en général, ce qu'on fait, c'est l'été, pour pas laisser les gens sans rien, on fait un summer camp tous les étés, juillet, août, on fait des cours. Jusqu'à maintenant, je les faisais gratuits. Bon, cette année, comme mes adhérents n'ont pas pu avoir de cours, je pense que je vais pas le faire gratuit pour tout le monde. C'est-à-dire que ceux de l'extérieur qui voudront venir, on leur demandera quand même une cotisation. Et du coup, on s'entraîne. En fait, là, ça fait, il me semble, 5 ans que le club a pas fermé ses portes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de juillet-août, on continue à s'entraîner. Et d'ailleurs, je comprends pas qu'on ferme les clubs juillet-août, parce que les enfants qui n'ont pas la chance de partir en vacances, ils font quoi en juillet-août? Ils restent là à rien faire, etc. C'est pas normal. Justement, c'est à ce moment-là qu'on devrait laisser un maximum de clubs ouverts, même s'il y a des sections qui laissent les créneaux pendant juillet-août, le donner à d'autres sections. Il y a plein de gens qui veulent faire du sport aux enfants, et aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs. Et faut vraiment pas, juillet-août, pour les petits qui n'ont pas de vacances, faut qu'ils puissent faire du sport.
Bon, et alors ce summer camp pour cette année, c'est possible?
Si le Covid nous laisse, j'espère qu'on puisse le faire en salle. L'année dernière, comme c'était un peu compliqué, il n'y avait pas de salle, du coup on l'a fait dehors, on l'a fait au bassin d'Aviron. Et ça a donné des idées, parce que du coup Mounir et Mossab, ils ont lancé leur all day in. Le all day, en fait, c'est ça, hein, c'est faire de la prépa physique à l'extérieur, et on voit que c'est un grand succès. Parce que même les gens qui veulent pas le faire, moi je sais que sur le summer camp, il y a plein de gens qui à la base venaient faire de la muscu au bar, ils commencent à nous regarder, on peut? Ouais, bien. Enfin, ils regardent un petit peu, ils voient qu'on n'est pas des malades, que personne ne saigne, et puis après ils viennent.
D'autres rendez-vous de ce genre?
Le summer camp, j'espère qu'on va pouvoir le faire, en sachant que l'année dernière, j'avais quand même des gens, c'est un peu dur à croire, mais il y avait des gens des quatre coins de la France qui m'appelaient pour me demander s'ils pouvaient venir à Mantes-la-Jolie s'entraîner avec nous. Et c'est ça qui me peine un peu par rapport à la ville, parce qu'en fait, par nos actions, on met quand même une bonne image sur Mantes. C'est-à-dire que concrètement, à quel moment quelqu'un se dit « Bah tiens, je vais aller passer une semaine à Mantes-la-Jolie ». Enfin non, ça n'existe pas. En plus, là, on va le fourrer, donc... À la limite, chaque fois qu'on entend parler du Val-Fourré de Mantes-la-Jolie, c'est plus pour des trucs pas terribles. Et bah non, on ramène que du positif en fait. Et ça me peine un peu du coup que ça soit pas. Que les gens le voient pas quoi.
Bon, et à part le Summer Camp, est-ce qu'il y a d'autres événements que vous organisez généralement ?
Next Level, c'est une compétition, même chose, qui attire des gens de partout. La dernière que je devais faire, qui a été bloquée à cause du Covid justement, j'avais normalement des équipes de Lyon, de Bordeaux, de Monaco, et j'avais même une équipe d'Andorre qui devait venir. Bah, c'est tombé à l'eau. J'étais même en contact. Il devait y avoir des Brésiliens qui viennent faire des stages ici en France et qui voulaient justement participer au gala. Ça aurait été vraiment, du coup, un gala international. Bah, ça, c'est aussi un petit peu mort. Sinon, on organise plein de choses ponctuellement, on essaie de faire des actions aussi caritatives. Il y a énormément de choses. Il y a même de la réinsertion professionnelle qu'on fait avec Karim, justement, qui est avec moi en coaching. On a passé des formations et là, on travaille avec une association qui s'appelle l'APELS. Et en fait, tous les 6 mois, on prend 10 jeunes avec nous qui sont sans emploi. Et en fait, on les fait venir au sport. À travers du sport, on fait des transferts de compétences vers le travail qu'eux, ils envisagent de faire, etc. Et on les accompagne sur la rédaction de CV, entretien d'embauche, etc. Et genre, sur les premiers 6 mois que j'ai fait, j'ai eu 100% de personnes qui ont retrouvé un emploi. Là, sur ma deuxième session, on a déjà 60% des jeunes qui ont retrouvé un emploi. Il y a vraiment énormément de choses autour de la Chapin.
Bon, et par rapport à la situation actuelle, est-ce que vous craignez pour la survie du club ?
Si ça continue comme ça, enfin à la rentrée prochaine, je pense pas qu'on aura une personne. Parce que là, concrètement, la personne qui s'inscrit là cette année, elle a pu s'entraîner 2 mois. Donc alors, personne, et ça, je tiens vraiment à le souligner, personne m'a fait la remarque de me dire « Bah quand même, faut me rembourser, etc. » Personne. Mais bon, même moi, je me vois pas demander une cotisation à quelqu'un l'année prochaine, si ça s'est déroulé comme ça. D'ailleurs, là, je suis en train de penser à tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour compenser les gens. J'ai la chance d'être dans le milieu depuis un bon moment et je connais des gens qui sont connus dans le sport. Je vais essayer de les faire venir pour qu'ils fassent des stages à titre gratuit pour ceux qui ont payé leur cotise pour essayer de compenser un peu. Mais là, ça fait beaucoup, beaucoup de temps à compenser hein, parce que là, on est dans cette position-là depuis octobre, il me semble.
Octobre, ouais.
4 mois. Donc, c'est vraiment compliqué. Je suis premier à être désolé de ça parce que je me sens malhonnête, même si c'est pas de ma faute, par rapport à mes adhérents, quoi. Et ça me peine.
Merci à vous, Eduardo Rodriguez, d'être venu dans nos studios.
Merci à vous de m'avoir reçu dans vos studios.
C'est la fin de ce journal des sports. Vous pourrez le réécouter demain mardi à 12h10. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Très bonne journée à l'écoute des programmes de BPM.
Le journal des sports de BPM.